Michel Baillet vous présente les rendez-vous des colibris.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous avec les colibris. À l'heure de l'urgence climatique, des enjeux énergétiques, de la sauvegarde de la biodiversité, nous recevons aujourd'hui deux représentants d'une association très importante pour notre territoire, le Comité écologique compte avant tout. À mes côtés, ces deux coprésidents, messieurs Michel Poirot et Pierre Pastor. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Merci de répondre à notre invitation. Votre association est certes déjà bien connue, mais pour nos auditeurs, merci de revenir sur son histoire et ses caractéristiques. Et je poserai peut-être la première question à ce sujet. Expliquez-moi, pourquoi deux coprésidents? Ça n'est pas banal dans la vie associative.
Ça n'est pas banal, mais en fait, nous sommes même trois, comme les trois mousquetaires, qui étaient d'ailleurs quatre. Parce qu'en fait, une association, elle
est très combatif.
Très combatif et surtout très, très associé. Une association vit avec des bénévoles. Nous avons très peu de moyens. Tout vient effectivement de l'engagement des bénévoles et on n'est jamais assez nombreux pour le travail. Donc nous sommes trois, nous nous entendons très bien et nous sommes épaulés par un conseil d'administration plus large.
Très bien. L'histoire a connu des triumvirats célèbres. Je pense que vous vous inscrivez parmi ceux-ci. Bon, si vous voulez bien, parlons donc de votre comité. Sur des éléments tels que sa création, sa dimension, sa composition et son fonctionnement, nous allons explorer tous ces sujets. Question simple, quand a-t-il été créé ?
Alors, le comité écologique a été créé en 1976. Et en fait, il a été créé par des lycéens. Et c'est quelque chose qui nous fait bien réfléchir, beaucoup réfléchir, parce qu'on aimerait bien, dans la période actuelle, retrouver des lycéens ou des étudiants, des jeunes en général, qui participent un peu plus au comité. Alors, c'est vrai, ils participent beaucoup, on y reviendra tout à l'heure, dans des actions précises, comme le nettoyage de la planète. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que un peu plus constant. Et donc, on passe notre temps à réfléchir à comment arriver à ça. Alors donc, pour en revenir à 1976, le comité a été créé par des lycéens sous l'égide de Charles Gilbert, qui était leur professeur de philosophie. Et deux autres personnes participaient à ces premiers pas, c'est Marie-Hélène Chambrette et Rodolphe Miquet. Et donc, ils se sont mobilisés autour de premières actions. Je parlerai tout à l'heure d'une action plus emblématique, mais de premières actions qui étaient autour des additifs alimentaires, vous voyez déjà que ça existait, ou de la surconsommation de la période de Noël. Ou encore sur des défrichages un peu abusifs, des pieds, des dentelles de Montmirail, ou de la vigne a été...
Le déboisement.
Voilà, déboisement, de la vigne plantée, mais elle n'a pas été plantée pour être plantée, c'était plutôt que ça donnait le prétexte de faire ce qu'on appelle un peu plus pisser, entre guillemets, la vigne dans la plaine, et ça donnait l'illusion qu'effectivement, le fait d'avoir arraché là, ça donnait des volumes. Voilà.
Donc du mitage, la peau de léopard de nos dentelles de Montmirail.
C'est un peu ça.
Revenons à votre comité, c'est bien, il est créé, donc ça commence à faire déjà pas mal de temps, c'est une ancienne association. Quel est son territoire d'intervention en fin de compte, depuis sa création?
C'est le comte Avenessin, et pour des raisons en partie politiques, c'est le territoire de la Cove. Mais ça ne nous empêche pas de regarder sur les communes avoisinantes, Monteux, etc. Donc c'est un territoire qui fait à peu près 70 000 habitants, à peu près 700 km², donc c'est un petit millième de la France. Ça n'est pas négligeable.
Surtout la terre vauclusienne, loin de là. Vous parliez il y a un instant des premiers adhérents, des jeunes, des créateurs de votre comité. Aujourd'hui, quels sont vos adhérents? Comment et où les recrutez-vous?
Alors, on a à peu près aujourd'hui 250 adhérents. C'est comme dans toutes les associations, c'est-à-dire qu'on a 250 adhérents, ce sont des gens qui payent leurs cotisations ou qui l'ont payé l'année dernière et qui sont en cours de renouvellement. On a ce total-là. La question, c'est qu'il faut qu'on aille un petit peu plus loin dans les actions. Et donc, pour les actions, on a besoin de militants. Et là où on a un déficit, c'est justement dans le nombre de gens réellement bénévoles et actifs qui sont là pour entreprendre certaines actions. Donc effectivement, avec nos 250 adhérents, on est la plus grosse association d'écologie de l'ensemble du Vaucluse. Donc évidemment, ça joue dans notre façon de réagir et de penser les choses, parce qu'on a une certaine responsabilité par rapport à ça. D'autant que nous avons aussi un agrément environnement. Cet agrément environnement est important parce qu'il nous permet, sur ces questions environnementales, d'ester en justice si nécessaire. Et du coup, ça nous place dans une position un petit peu différente.
Bien sûr, bien sûr. Dans mon introduction, il y a quelques instants, j'insistais sur l'importance que représentait votre comité. Et vous venez, Monsieur Pastor, d'en préciser un aspect ô combien essentiel, à savoir l'agrément dont vous êtes les bénéficiaires. Donc, à quel niveau cette importance se mesure-t-elle pour vous et dans le cadre de vos fonctionnements? Comment considérez-vous que le fait d'être reconnu de façon quasi institutionnelle vous aide dans les actions et les objectifs que sont les vôtres?
Je dirais que ça nous donne une visibilité vis-à-vis des pouvoirs publics, une crédibilité aussi lorsque l'on discute avec la mairie, avec la COV, voire avec d'autres élus locaux. On sait qu'on représente effectivement quelque chose. Ce n'est pas trois personnes isolées au sein du comté avenaissin. Il y a derrière nous effectivement des gens. Pierre parlait des 250 adhérents. En fait, une association, c'est un ensemble de cercles concentriques. Vous avez un noyau dur, nous en faisons tous les trois co-présidents partis avec les membres du conseil d'administration. Il y a les 250 adhérents. Et puis, il y a aussi les gens qui sont les sympathisants, qui viennent, qu'on ne connaît pas, et qui viennent effectivement à nos actions, à nos activités. Et puis, et Pierre pourrait le préciser aussi, nous avons les gens qui nous suivent sur notre page Facebook, une page Facebook que Pierre anime au quotidien avec beaucoup d'énergie et de talent, et qui comporte un bon nombre de suiveurs, followers, comme on dit. Mais là, je crois que Pierre voudrait peut-être être plus précis que moi.
Oui, sur la page Facebook, bon, ça a démarré comme toutes les pages Facebook, avec une cinquantaine de personnes qui nous suivaient, et ça a gonflé au fur et à mesure. Aujourd'hui, on a à peu près 650 personnes qui nous suivent quotidiennement, et du coup, quand on a une action, ou qu'on relaie une action qu'on a menée, ça a un impact assez important. C'est aussi le cas de notre journal. Notre journal s'est étiré à peu près à 1500, 2000 exemplaires.
Vous avez un journal, donc c'est une information déjà, hein, merci. C'est évident que pour vous, qui êtes complètement plongé dans le fonctionnement de votre comité, vous avez l'impression d'exprimer des évidences. Mais n'oubliez pas nos auditeurs qui, eux, se disent « Tiens, ils ont un journal, organe de presse, de quoi s'agit-il » Expliquez-nous
alors,
ça.
Alors, je laisserai dire à Michel dans quels endroits on peut le trouver, ce journal. Je vais juste donner deux, trois précisions. C'est que ce journal est tiré à 1500...
Il a un titre ?
Le Libre Canard. Merci de m'aider. Et Le Libre Canard, donc tirage à 1500, 2000 exemplaires. Et ça, c'est le tirage. Le tirage se fait en fonction des demandes et redemandes, hein, puisqu'on a quatre tirages par an. On a un petit côté quatre saisons de Vivaldi, voilà, on est un peu sur ce registre-là. Et ce journal, il a un lectorat qui, du coup, puisqu'on tire à 1500, 2000, c'est plutôt 4000, 5000 personnes qui le lisent, parce qu'il est amené dans la maison et il est passé de main en main, voilà. Alors, je vais laisser Michel dire les différents endroits, parce que où on peut le trouver.
Oh ben, on essaie de le mettre dans un certain nombre d'endroits stratégiques où passent des gens qui ont un petit intérêt pour l'écologie, la Biocoop évidemment, le cinéma, le Rivoli à Carpentras, différents commerces. Et je pense qu'il faudra, évidemment, on le présente sur nos tables quand on participe à différentes activités, à différentes manifestations. Et je pense d'ailleurs qu'on devrait essayer effectivement d'élargir notre distribution aux communes environnantes.
J'allais vous poser la question, oui, à ce sujet. Bien sûr, l'Office des tourismes, des choses comme ça.
Oui, oui. Mais enfin, disons, il faut aussi que les commerçants soient volontaires. On n'a peut-être pas été assez proactifs, mais on voit que pas mal de gens le demandent. On les met dans les présentoirs et on voit qu'effectivement, au bout de quelques jours, il n'y en a plus. Donc les gens les prennent, ils les lisent, je ne sais pas ce qu'ils en font ensuite. Mais je pense que ça commence effectivement à être connu et ça fait partie du troisième cercle, si vous voulez, de notre influence relative sur le comté avenissant.
Alors, précision importante, évidemment, le Libre Canard est gratuit.
Donc, vous les financez, je suppose, par des mécènes ?
Oui, c'est ça. Par nos publicités, par nos cotisations.
Je reviens juste une seconde sur l'information que vous nous apportiez concernant cet agrément. Qui vous accorde cet agrément ? Et dans la mesure où il vous est accordé, je pense qu'il vous donne des responsabilités particulières sur un sujet, aujourd'hui l'écologie, qui est chaud ô combien à différents niveaux. Mais vous êtes une association, donc comment recevez-vous cette responsabilité ?
Alors, cette responsabilité nous est accordée, et est accordée à toute association à partir du moment où elle s'engage dans le domaine de l'environnement, mais surtout où elle a un certain âge, 3 ans, pour pouvoir déjà le demander. Et évidemment, il faut remplir un certain nombre de critères, je ne vais pas les énumérer parce que ce serait trop long, et c'est auprès de la préfecture. Donc c'est le préfet du département qui accorde et qui justifie dans sa décision décisions, les raisons qui ont fait que
vous obteniez cet
agrément. Cet agrément. L'agrément nous permet à la fois de participer à l'action des organismes publics de l'environnement, nous permet de participer à des instances consultatives et évidemment, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, nous donne la possibilité de mener des actions en justice. Par exemple, attaquer au tribunal administratif des décisions de l'administration, s'occuper de la défense des intérêts collectifs et enfin mener d'éventuelles actions de groupe.
Donc c'est vraiment une reconnaissance. Vous avez, monsieur Michel Poirot, utilisé le terme de crédibilité. C'est essentiel dans ce que vous faites. Bon, écoutez, nous allons pouvoir poursuivre notre entretien après une petite phase musicale qui nous permettra de reprendre notre souffle.
Such a beautiful night to make a change in our lives. East tangling sky, empty bottle of wine. I got you by my side, talking about love and life. Oh, how lucky am I when I look in your eyes. What a wonderful way to spend a moment or two. To be lying awake and be here talking to you. I got something to say, I know what I gotta do. To be making a change, now the moment of truth. Why am I feeling so nervous when things are going so perfect? But I know that it's worth it to spend forever with you. And so I count to three and get on one knee. And I ask you, darling, honestly, I've waited all this time just to make it right. So I'll ask you tonight, will you marry me? Just say yes. The hand, fingers running through hair, lips pressed to her lips, so I was caught unaware. Arms holding me tight, tears in both of her eyes. What a beautiful way to spend the rest of our lives. The sun will reappear, burning olive and red. My chest was the pillow, green grass long was the bed. Last night was the night, one last moment of truth. And what a wonderful way, falling deeper in you. Why was I feeling nervous when things were going so perfect? Now I know that it's worth it to spend forever with you. And so I count to three and get on one knee. And I ask you, darling, honestly, I've waited all this time just to make it right. So I'll ask you tonight, will you marry me? Just say yes.
Écoutez les rendez-vous des Colibris avec Michel Baillet.
Nous reprenons notre entretien avec M. Michel Poirot et M. Pierre Pastor, coprésidents du comité écologique Comptes-Ventoux. Je reviens sur notre sujet d'il y a quelques minutes, lorsque nous évoquions ce qui me paraît très essentiel, cet agrément acquis auprès de la préfecture. Ça vous donne des responsabilités très certainement en ce qui concerne votre volonté d'avoir une représentativité à la fois neutre, dans un contexte politique ô combien agité sur ces questions, mais aussi pluraliste, de façon à pouvoir vous adresser à toutes et à tous selon vos objectifs.
Oui, effectivement, le comité écologique est une association apolitique, indépendante des partis politiques et des industriels, et nous souhaitons le rester. Nous estimons que la défense de l'environnement est une question qui intéresse tous les citoyens, quelle que soit la diversité de leurs choix, de leurs préférences politiques que nous respectons. Lorsque nous avons eu les élections municipales à Carpentras, nous avons offert aux 5 listes qui étaient présentes une tribune. Nous savons même, nous croyons savoir que nous avions des adhérents du comité écologique qui était présent sur plusieurs listes et pas sur une seule. Donc ça montre que ce pluralisme, il existe effectivement et nous essayons de dépasser des clivages qui peuvent être parfois artificiels. Donc l'important, c'est l'indépendance, l'autonomie par rapport aux partis politiques pour défendre l'environnement avec l'ensemble des citoyens.
Juste un mot pour ajouter que même à l'intérieur du comité, il est clair qu'il doit y avoir différentes opinions. Il y a différentes opinions politiques, mais c'est peu souvent abordé parce qu'on trouve justement les dénominateurs communs.
Si ce n'est la politique au sens noble du terme.
C'est ça, exactement. Hein,
ce qui vous réunit au chevet de notre environnement. Eh bien, nous allons maintenant préciser, après avoir fait connaissance du comité, de préciser son rôle, ses objectifs. Alors, peut-être question provocante, je vous la pose. En quoi peut-on dire que votre comité est utile à nos concitoyens ?
Alors, on l'a un peu précisé tout à l'heure. Je vais donner un exemple d'aujourd'hui qu'on mène. Il y a un peu plus d'un mois, des personnes, des citoyens de Sarrian nous ont contactés en nous disant voilà, près de la Via Venezia, il y a un dépôt qui est là, un dépôt de matériaux du BTP qui a été accumulé. Et à partir de ce dépôt, une pollution est en train, semble-t-il, de s'organiser.
Je précise, tout le monde ne le sait pas, vous qui est sur le terrain, mais Via Venezia, qu'est-ce que c'est ? Nos auditeurs, à 300 et quelques kilomètres de nous, Quesaco.
La Via Venezia, c'est une piste cyclable aménagée qui a été faite sur le tracé d'une voie ferrée, où la voie ferrée a été... Enfin, les rails ont été retirés, la voie a été aménagée, et donc elle relie un certain nombre de villes, et notamment en passant, par exemple, de Carpentras, Sarrian, Jonquière, voilà, et elle va aller, je pense, jusqu'à Orange d'un côté, jusqu'à Perne de l'autre, et Velleron un peu plus loin. Et donc, au bord de cette Via Venezia, en plein centre-ville finalement de Sarrian, il y avait cette accumulation de déchets et notamment sur ces déchets du BTP, différents matériaux, des plastiques, des polystyrènes, et ces polystyrènes allaient dans la maille qui se retrouvait à proximité, étaient amenés au brigou, pouvaient être amenés jusqu'à la mer, donc il y avait une intervention rapide à faire sur ça. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire, on a mobilisé toutes les personnes responsables, on s'est adressé aux maires de Sarrian, qui a d'ailleurs agi. On s'est adressé au sous-préfet, à l'Adréal, on s'est adressé aux responsables de cette éventuelle pollution, le supposé. C'est pas à nous à déterminer les responsabilités, mais il y a une entreprise qui était sur le lieu et qui avait fait cette accumulation. Il y avait aussi le propriétaire du terrain. Donc la question est que il y avait des démarches à mener pour essayer d'enrayer cette pollution. Ça nous a amené, puisqu'on parlait de justice, à porter plainte auprès du procureur de la République ou à mobiliser l'Adréal et les services de l'État qui s'occupent de l'environnement auprès de la préfecture.
Très bien, très bien. Voilà, en effet, un exemple concret du service rendu à nos concitoyens par rapport à ce que peut être une pollution de ce type. Donc, puisque vous évoquiez la ville de Sarrian et les différents représentants institutionnels auxquels vous vous êtes adressé, quels sont vos partenaires institutionnels précisément sur notre territoire et quels sont à la fois vos objectifs et les actions que vous menez avec celle-ci ? Je pense à la COV, je pense à la mairie, je pense donc éventuellement aux représentants également de la société civile, ça peut arriver, ou à des industriels, comme vous venez de l'indiquer.
Eh bien, précisément, nos partenaires institutionnels, ce sont ceux qui sont près de nous, c'est-à-dire la mairie de Carpentras, avec laquelle nous entretenons des relations fréquentes, qui ne sont pas des relations de complaisance, mais qui sont des relations de coopération. Ils sont dans leur rôle, nous sommes dans le nôtre. Ils sont élus, ils sont responsables, ça n'est pas notre cas, mais nous estimons que nous devons les informer, les alerter quand nous voyons un certain nombre de problèmes sur le territoire de la commune, et nous avons régulièrement des réunions avec la mairie. Chacun expose ses points de vue et nous essayons de progresser. D'ailleurs, nous avons engagé un certain nombre d'actions avec la mairie. La journée de l'arbre, l'an dernier, qu'il faut élargir, parce que c'est pas uniquement en plantant un arbre que nous allons verduriser Carpentras, qui en a bien besoin. Avec la COV, avec qui nous avons eu aussi une réunion de travail l'an dernier, nous allons en reprendre une, peut-être le PNR. Mais ce qui est important aussi, c'est le lien que nous avons avec d'autres associations sur des sujets communs. Il y a un mois, nous avons organisé avec la ville, enfin, où la ville a organisé avec nous, une journée sur le vélo, qui était un moyen de sensibiliser les gens. Ceci a été fait aussi avec d'autres associations. Nous sommes intervenus sur les questions du SCOT, enfin l'aménagement, l'urbanisme, avec d'autres associations, et nous continuons à le faire. Et un dernier point, c'est on pense qu'on doit aussi relayer non seulement exprimer le point de vue de l'association en tant que telle, exprimer, délibérer dans la diversité de ses membres au sein du conseil d'administration, mais aussi relayer parfois les préoccupations des habitants. On est parfois saisi par des gens qui voient un certain nombre de problèmes et nous essayons de les aider, nous intervenons, on est intervenu sur l'éclairage tardif du Leclerc, etc. Et on a participé, par exemple, lorsqu'il y a eu le grand débat, on s'est dit, on va en profiter. On a organisé une discussion très ouverte sur les questions de l'environnement et aussi on avait ajouté la fiscalité. Il en est sorti des propositions qui ne venaient pas du comité mais de la salle, que nous avons reprises, qu'on a diffusées dans le Libre Canard et qu'on a ensuite envoyées aux élus locaux en disant voilà ce que les gens trouvent important, continuons à travailler dessus.
Alors quelques questions sur ce que vous venez de développer, Monsieur Poirot. Contact et travail avec la COV et avec la ville de Carpentras. Sous quelle forme ? Vous parliez de réunions régulières, de réunions. Est-ce qu'il y a une régularité ? Est-ce qu'il y a des rendez-vous ? Êtes-vous, à ce titre, reconnus comme des interlocuteurs officiels, en quelque sorte, sur les questions environnementales pour la ville ? Même chose pour la COV. Comment se passe-t-il ? Et quelques sujet que vous avez été amené à travailler avec l'une ou l'autre de ces institutions.
Pour ce qui concerne la mairie, effectivement, on est considéré comme des interlocuteurs et les réunions ont lieu régulièrement. Quand je dis régulièrement, c'est de manière officielle, deux ou trois réunions qui ont lieu dans l'année où on échange sur des problèmes. Par exemple, là, nous aurons une réunion à la rentrée. À la rentrée, les choses ont été déjà posées.
À l'initiative de la mairie ou à votre initiative ?
Michel Poirot avait sollicité la mairie sur une question. Et plutôt que d'aborder plusieurs points, la mairie a décidé de nous interroger en nous disant « Ce serait bien qu'on fasse une réunion. Quels sont les points que vous souhaiteriez mettre à l'ordre du jour ?» Donc, on a, nous, déterminé un certain nombre de points qu'on souhaitait mettre à l'ordre du jour. Mais il y a aussi l'autre côté, c'est-à-dire que la mairie va peut-être aussi prendre l'initiative de nous parler de tel ou tel sujet qui la préoccupe. Donc, en fait, c'est un échange dans les deux sens.
En fin de compte, c'est toujours occasionnel quand même, un petit peu, me semble-t-il. Il n'y a pas d'organisation comité-mairie dans le cadre de ce que les mairies connaissent bien, les collectivités, les commissions. Il pourrait y avoir une commission environnement au sein de laquelle vous êtes représenté et au sein de laquelle vous avez la possibilité de vous exprimer de façon très très légal et officiel.
En fait, comme nous sommes une association indépendante, nous maintenons notre indépendance, ce qui veut dire que nous ne souhaitons pas forcément être intégrés dans des dispositifs très, très, très lourds et très complexes. Nous préférons agir au coup par coup, de manière régulière, sur des sujets qui nous paraissent effectivement importants et qui trouvent d'ailleurs un écho, non seulement parmi nos adhérents, mais aussi parmi la population.
Vous avez évoqué le SCOT. Qu'en est-il à propos du SCOT ? Parce que tout le monde n'est pas informé sur ce que représente ce vocable-là. Hein ?
Alors, bon, c'est toujours du vocable large et assez compliqué. En gros, le SCOT, c'est le schéma directeur d'aménagement du territoire. Je ne reprends pas les termes exacts, mais voilà, c'est le schéma directeur d'organisation du territoire qui touche à tous les domaines, notamment la consommation des terres, l'urbanisme, l'eau, les énergies, bon, etc., etc. Et donc ça, c'est une décision qui est prise par les élus au niveau de la COV et qui organise l'ensemble de la manière de régir et de gérer, par exemple, toutes les questions d'urbanisme. Alors après, ça se décline, c'est-à-dire que c'est un schéma qui est au-dessus, de, par exemple, du plan local d'urbanisme. Et donc, le plan local d'urbanisme doit tenir compte de ce qui s'est décidé dans le SCOT. Et donc ça, ça va arriver pour la ville de Carpentras, puisque le PLU sera repris et revoté l'année prochaine.
Alors, qu'est-ce qui a éveillé, là, votre action sur ce sujet ?
Sur le SCOT en particulier, la première version qui avait été donnée de ce document important, qui fait des centaines de pages, c'était surtout le fait que les chiffres qui avaient été retenus par la COV et par les élus étaient extrêmement important. Les chiffres de croissance de la population sur les 15 ans, parce que ce schéma prévoit l'organisation sur 15 ans. Et donc, ces chiffres étaient très élevés, ils étaient très importants et ne tenaient pas compte des chiffres même de l'INSEE, d'une part, de croissance de la population annuelle publiée par l'INSEE, ne tenaient pas compte des chiffres publiés par la région elle-même, qui avait travaillé sur la question, ne tenaient pas compte des chiffres avancés par l'État. Et donc, nous, on est intervenus en disant qu'il était difficile de rentrer dans cette manière de penser. Pourquoi ? Parce que ces chiffres, ensuite, déterminent le nombre, la quantité de terres naturelles ou agricoles qui vont être prises pour des constructions. Ça détermine la bétonisation, ça détermine des infrastructures. Et donc, prendre un chiffre très élevé de croissance annuelle, ça implique qu'on va consommer énormément, alors que ce n'était pas le cas. Tout démontre et continue à démontrer qu'on est sur des chiffres nettement plus bas que ce qui avait été envisagé.
Avez-vous été entendu ?
Oui, en partie. Alors, on va pas dire oui totalement, mais en partie, parce que ces chiffres qui avaient été utilisés à ce moment-là, quand on voit maintenant la traduction du PLU, et notamment la première version du PLU qui avait été proposée en 2018 ou 2019, je ne sais plus, et ce qui va être proposé là dans l'avenir, on voit que beaucoup de choses ont été corrigées à cause de cette action qu'on a menée, je n'ai pas précisé, auprès du tribunal administratif avec l'ensemble d'autres associations, 7 ou 8 autres associations du territoire.
Merci, monsieur Pasteur. Après ce développement très technique mais nécessaire pour bien illustrer l'importance du rôle qu'est le vôtre, deuxième petite possibilité de reprendre son souffle avec un peu de musique.
Vous écoutez les rendez-vous des Colibris avec Michel Baillet.
Nous avons bien compris combien le rôle que vous pouvez jouer aux côtés des institutions, la mairie, mais vous avez aussi évoqué la COV. Alors, la mairie, des réunions un petit peu occasionnelles, on demande votre avis. Qu'en est-il avec la COV qui couvre un territoire beaucoup plus large et qui touche beaucoup plus de communes?
La COV, effectivement, c'est une collectivité de communes importante, qui a un budget important, qui a des impacts sur la vie quotidienne des habitants. La COV est responsable de la gestion des déchets sur le territoire. Elle a aussi adopté, et on en est très heureux, un schéma directeur pour le vélo. Document très épais, on l'a lu jusqu'au bout, très bien fait. Et puis, à la fin, il n'y a pas de planning. Il n'y a pas de priorité, il n'y a pas de budget. Alors, on va prendre la COV au mot en disant « qu'est-ce que vous faites maintenant ?» Il faut effectivement que ce schéma directeur du vélo soit mis en place, non seulement pour qu'on puisse faire du tourisme dans notre belle région, mais aussi pour les déplacements du quotidien. La plupart des déplacements du quotidien, c'est autour de 3 ou 4 kilomètres. On peut les faire à pied, si on a le temps et si on est courageux. On peut les faire encore plus aisément en vélo. On a besoin de modes de transport alternatifs pour ne pas être dépendant de la voiture lorsque l'essence est à 2,10 € aujourd'hui et on ne sait pas à quel prix sera l'essence dans un an, dans deux ans, dans cinq ans.
C'est tout à fait évident ce que M. Michel Poirot vient de nous transmettre. Et donc, avec la COV, vous participez à des ateliers sur des sujets...
Oui, on a deux niveaux. Le premier niveau, c'est le fait qu'on est dans des ateliers de travail qui sont organisés par la COV. Je donne un ou deux exemples, des déchets, sur les déchets alimentaires, par exemple, sur cette question du vélo. On a participé.
Qu'est-ce que vous faites dans ces ateliers ?
On participe au même titre que d'autres organisations à essayer de penser, par exemple, le plan vélo ou penser quelle organisation il faudrait pour les déchets alimentaires.
Et trouver des solutions.
Cantines. Oui, trouver des solutions.
C'est ça ce qui est important. Ce que nos concitoyens attendent, c'est qu'on apporte des solutions aux problèmes auxquels ils sont confrontés.
Oui, Michel, vous mettez le point sur ça. C'est-à-dire que c'est sur la démarche, sur la façon de penser du comité. C'est que ce soit pour la COV ou que ce soit pour la mairie, notre façon de penser, c'est que nous préférons travailler en amont des dossiers pour proposer à chaque fois des solutions, plutôt qu'attendre que les choses soient réalisées et qu'on se retrouve dans des choses qui sont plus ou moins bien faites. Et donc, on préfère proposer. Évidemment, nous sommes force de proposition. Et ensuite, il y a des élus. Les élus ont le droit de décider de retenir ceci ou cela. Ça, c'est leur problème. Mais nous, on préfère être en amont des dossiers et on aimerait, et j'en profite pour le dire fortement, notamment avec la COV, on aimerait pouvoir travailler en amont avec la COV de manière plus approfondie et de façon à ce qu'on tienne compte de ces éléments que nous pouvons apporter, de cette aide à la réflexion. On le considère comme aide à la réflexion. On ne veut pas imposer nos vues, mais parce qu'il y a aussi une diversité, il y a d'autres associations qui peuvent penser un peu différemment. Mais voilà.
Sur ce rôle que vous venez de définir, notre territoire possède une particularité ô combien importante, la COV, sa dimension, ses communes, ses moyens, mais aussi le parc naturel régional du Ventoux maintenant. Est-ce que vous avez une relation avec les structures du parc naturel régional ?
Nous avons participé, j'ai participé au GAL. Le GAL, c'est le groupe d'action locale qui gère les fonds, qui sont les fonds européens, qu'on appelle LEADER. Donc j'ai participé jusqu'à présent et j'ai siégé au nom du comité dans ce GAL. Maintenant, puisqu'on a l'occasion d'être plusieurs, j'ai passé le relais à Michel Poirot, qui sera présent dans les prochaines réunions qui s'organiseront pour le GAL. Voilà. Donc si effectivement on peut apporter notre pierre à la construction du parc, on le fera volontiers.
Monsieur Poirot, quelque chose à ajouter ?
Sur le parc, on est très heureux qu'effectivement il y ait un parc naturel régional du Ventoux. Ça a pris plus de 20 ans. On a regardé les dossiers, on a fait des observations très détaillées lorsqu'il y a eu l'enquête publique. Chaque fois d'ailleurs qu'il y a une enquête publique, nous intervenons.
À quel sujet en particulier ?
Justement, on a décortiqué l'ensemble du document. On s'est aperçu que ce PNR, ça risquait d'être simplement une étiquette, que rien n'allait changer. Donc on a pensé qu'il fallait effectivement insister.
Alors dites-nous, qu'est-ce qu'il faudrait changer ?
Il faudrait qu'effectivement, si vous voulez, on limite la publicité, que les sports dits automobiles et les motos soient quand même contrôlés. On souhaiterait que l'urbanisation, le mitage du territoire soient effectivement bien plus contrôlés. Donc on a fait toute une série de propositions et on va sans doute reprendre contact cet automne avec les instances du parc pour voir où ils en sont. Il y a un premier rapport d'étape qui devait être fait. On ne l'a pas encore vu. On va le regarder. On tâchera d'en discuter.
Parce qu'il me semble que dans son organisation, le parc naturel régional du Ventoux élabore une charte qui devient un document opposable à ce que vous exprimiez il y a un instant sur la vigilance accordée aux différents sports, à la fréquentation, etc. Est-ce que vous avez été sensibilisé en tant qu'association environnementaliste et écologiste à l'élaboration de cette charte ?
On n'y a pas participé vraiment. Alors, en fait, une autre association a participé, qui est France Nature Environnement. Quand le parc a démarré, il y a des choix d'associations qui ont été faits. Et parmi ces choix a été retenu France Nature Environnement. À l'époque, le comité appartenait à France Nature Environnement, donc nous étions parfaitement d'accord. Aujourd'hui, nous n'en faisons plus partie pour des raisons que je ne vais pas détailler. Mais voilà, donc on a pas réellement œuvré pour le travail sur la charte.
Mais est-ce que vous disposez de ce document, la charte ? Est-ce que vous l'avez ?
Je pense qu'on l'a, oui.
Oui, parce qu'il y a pas mal de communes de la COV avec lesquelles vous êtes amené à travailler en tant qu'institution, mais qui se retrouvent également sur le territoire du parc naturel du Ventoux. Là, il y a un recoupement qui est important.
Il y a un point qui est très important. On essaie d'intervenir en amont, comme le disait Pierre, des décisions. On a d'ailleurs été, je crois peut-être, on a stimulé la COV pour qu'elle sorte un plan PCAET climat, environnement du territoire. Ils n'y avaient pas pensé, donc il est sorti, on l'a regardé. Mais on est très frappé de voir tous ces documents locaux ou documents nationaux. Il y a des objectifs avec lesquels on est d'accord, transition écologique, défense de l'environnement, etc. Et puis on trouve très rarement des objectifs précis, quantifiables et vérifiables. Donc on insiste à chaque fois pour dire combien de mètres carrés d'urbanisation vous allez réduire, comment on va préserver les terres agricoles. On essaie d'avoir des éléments chiffrés, des engagements précis sur lesquels effectivement on puisse suivre les engagements. Sans ça, c'est de la pure rhétorique. Et on voit très bien, l'affichage sauvage se poursuit, la bétonisation se poursuit, l'artificialisation des terres se poursuit. Et les pistes cyclables passent bien avant les ronds-points ruineux à 4,5 millions d'euros à la sortie de Carpentras ou à 12 millions d'euros en face de Ducrot sur la route qui va de Carpentras à Avignon.
Alors c'est peut-être un moment important sur lequel je vais revenir. Tout à l'heure, c'était M. Pastor et vous-même, M. Poirot, qui évoquiez votre capacité à intervenir en amont sur les sujets. Mais est-ce que maintenant, par rapport à vos dernières observations, il ne serait pas utile que vous puissiez aussi avoir un rôle en aval? Parce que vous disiez, on discute, on fait des propositions, on se met d'accord. Quels sont les résultats acquis après que vous ayez travaillé? Est-ce que vous sollicitez la possibilité de reprendre parole au nom de vos adhérents, de vos militants et de tous vos sympathisants pour faire le point sur l'évolution souhaitée des sujets abordés? Je pense à les déchets, la collecte des déchets. Je sais que vous participez à des opérations chaque année, ramasser les déchets avec les citoyens, c'est une opération citoyenne. Mais sur le plan vélo, j'ai vu que vous étiez venu avec votre bicyclette. Moi, j'en fais aussi tous les jours de la bicyclette. J'ai toujours un petit peu de stress lorsque je traverse la ville. Pour se venir de Carpentras. J'ai toujours beaucoup de stress lorsque j'utilise quelques routes communales et départementales pour me promener ou me déplacer sur le territoire de la COV. Donc, est-ce que ce message-là peut être délivré dans l'espoir qu'il soit entendu et concrétisé ?
Nous croyons que oui. D'ailleurs, on a l'impression quand même que depuis 3 ou 4 ans, un certain nombre de thèmes, de préoccupations du comité écologique relayés par nous, suite au grand débat ou à d'autres occasions, ont fini par percoler un peu chez les élus. Le fait que la municipalité de Carpentras a décidé de faire une journée de l'arbre montre que la question de la végétalisation d'une ville très chaude est perçue par les collectivités locales. Le fait qu'il y ait un plan vélo qui ait été verbalement décidé, sans moyens, c'est aussi quand même, ça montre qu'un certain nombre de choses, effectivement, commencent à évoluer. Mais on va continuer, si vous voulez, à suivre tout ça. On informe nos adhérents. On en parle dans le Libre Canard. Et quand on n'est pas content, on le fait savoir et on va même parfois en justice, comme c'était le cas sur le SCOT pour limiter l'artificialisation du territoire. Un autre exemple. Il y a un an, à peu près, le Super-U à la sortie de Carpentras sur la route de Mazan avait demandé une extension de sa surface dans des conditions extrêmement limites. La CDAC avait donné son aval, la commission départementale d'aménagement commercial avait donné son aval dans des conditions limites. Nous avons saisi la commission nationale, on a demandé à être entendu, on a envoyé des papiers, on a saisi la préfecture et on a réussi à être entendu. C'était un rendez-vous téléphonique, on a fait valoir nos arguments et la commission nationale a dit non à l'extension de ce Super-U. Donc on est très content d'avoir gagné, c'est rare hein, de gagner très contre l'urbanisme moderne, pour préserver, si vous voulez, les commerces du centre-ville, l'animation du centre-ville, et éviter cette obligation imposée aux gens de prendre leur bagnole pour aller faire leurs courses, alors qu'il y a des commerces au centre-ville.
Les exemples que vous venez de développer confirment que le comité écologique compte avant tout et vraiment sur le terrain, et vous vous intéressez en fin de compte au concret, à tout ce qui peut avoir un impact sur nos concitoyens et sur notre environnement. Depuis ces 20 dernières années, quand même, on ne peut pas ne pas dire que les créations et les prises de parole de mouvements environnementalistes et écologistes se sont multipliées, évidemment. Les organisations gouvernementales, maintenant, participent à des conférences mondiales, des sommets de la Terre, des COP, chaque année, les accords de Paris 2015. Vous êtes tous les deux acteurs engagés personnellement, puisque vous avez choisi d'être président. Et c'est une responsabilité. Mais vous êtes aussi engagés collectivement par votre comité et vos adhérents. Dans ce contexte, je dirais, présent de l'urgence répétée, comment envisagez-vous l'évolution du rôle du comité local? Estimez-vous avoir besoin de nouveaux moyens? Puis tout simplement, comment abordez-vous vos objectifs, vos actions? Quel avenir pour le comité? Avec réalisme? Avec optimisme? Ou avec pessimisme?
C'est un mélange de tout ça. On ne peut pas être béatement optimiste ou accepter d'être complètement pessimiste. Et c'est pour ça qu'effectivement, on participe au mouvement que vous venez d'indiquer, qui est un mouvement national et international. Mais en même temps, nous essayons de mettre notre focal sur notre territoire. Et tout à l'heure, par exemple, pour être concret, vous parliez du vélo. Donc pour le vélo, par exemple, on a travaillé avec les autorités, avec la mairie, sur les endroits dangereux, sur la vingtaine ou la trentaine de points de croisement, d'intersection dangereux aujourd'hui sur notre territoire pour faire en sorte que ça soit corrigé. Alors évidemment qu'on a une pensée, on aimerait avoir et que nos autorités, aussi bien la COV que la mairie, que le PNR, aient une réflexion plus globale. Je donne un exemple sur la question, est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas aller plus loin sur se réinterroger par rapport à la voiture, par rapport à la voiture en ville. Prenons Carpentras. Ils sont envisagés des travaux au platane pour le futur. Est-ce qu'il ne faut pas se reposer des questions sur est-ce qu'on laisse le flot des voitures telles qu'elles sont aujourd'hui? Notamment, par exemple, quand les gens vont jusque devant la porte de l'école pour accompagner leurs enfants. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas à se réinterroger? Et même, j'irai un peu plus loin, je vais employer le mot, il n'est pas très diplomate, mais il est la réalité. Est-ce qu'à certains moments, il ne faut pas être un peu coercitif pour faire en sorte que que les comportements évoluent? Et par exemple, empêcher que les parents aillent eux-mêmes avec leur voiture, bouffer les poumons de leurs enfants avec leur gaz carbonique. Voilà.
Je sens à travers l'émotion qui s'exprime à travers ces mots, Monsieur Pastor, combien vous vous sentez engagé par les problèmes auxquels le comité écologique compte avant tout, essaie d'apporter des réponses et de participer à ce qui aujourd'hui, en effet, est la priorité des priorités, répondre à l'urgence. Merci Monsieur Pastor, merci Monsieur Poirot d'avoir répondu à cette invitation et surtout de nous apporter là des éléments très enrichissants du rôle que vous pouvez et que vous assurez et pour lequel, j'ai bien compris, vous vous battez avec énergie sur notre territoire. Merci à Stéphanie pour son rôle essentiel de preneuse de son et auditrice et auditeur. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous avec Écolibri.
Michel Baillet vous a présenté les rendez-vous d'Écolibri.